Plateforme. Les arts et lettres.
Intimer sa vérité, le poème, la fiction, avec Chloé Delhomme et Ludovic de Groot.
Maintenant, c'est au tour de Chloé Delhomme et Ludovic de Groot de dialoguer avec Ronald Klapka. Et je crois que le titre de ce dialogue, c'est, ou de cette conversation, vous êtes trois, c'est « Intimer sa vérité, poésie-fiction ». Voilà, je vous laisse la place.
Donc, « Intimer sa vérité », le poème, la fiction, c'est quelque chose qui a surgi au moment où on demandait un titre, effectivement, à cette intervention. Il y a très peu de temps, on a cité Quignard il y a un instant, je relisais le texte d'une intervention dans un colloque de Cerisy sur les figures de lettrés, et Jean-Michel Rey était en train de se poser aussi la question d'un titre qu'il avait donné, qui était « La précréation ». Et il avait donné ce titre et il se demandait « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir dire lorsque j'ai donné ce titre ?» Et de fil en aiguille, il a retrouvé le fil de son intervention. Il s'agissait de la paronomase dont il voulait parler, précréation, procréation. Il s'agissait effectivement de ce qui amenait donc la création chez l'écrivain. Ici, donc, intimer sa vérité. Bien sûr, on retrouve le mot « intime » dans ce mot « intime vérité ». Et tout de suite, si on songe à « intime vérité », on songe peut-être aussi à « intime conviction ». Il y a quelque chose d'un petit peu combinatoire dans l'expression « d'intimer sa vérité », Chloé Delhomme, Ludovic de Groot, avec leur livre. C'est comme s'ils avaient reçu, quand ils ont écrit leur livre, peut-être avaient reçu une espèce d'injonction qui était d'intimer leur vérité, c'est-à-dire que de rendre par l'écrit, par ce qu'ils mettraient en mots, quelque chose qui est de l'ordre de leur vérité, alors à la fois quelque chose qui appartient à la généralité, la vérité, et puis qui en même temps serait le plus intime, c'est-à-dire de faire cette adéquation, quelque chose qui est le plus singulier et quelque chose qui pourrait atteindre une généralité, quelque chose qui pourrait toucher au cœur de tout un chacun. Alors, pour continuer avec Quignard et pour continuer aussi avec la psychanalyse, je vais commencer de la façon suivante. Je vais évoquer un livre qui s'appelle « La preuve par la parole ». C'est un livre de Roland Gori. On a entendu peut-être un peu parler de lui ces derniers temps, en raison de l'appel des appels à une insurrection des consciences. Je rejoins un petit peu cette fois Dominique Viard avec le texte de Flaubert sur les Romanichels. Et donc Roland Gori évoque Quignard avec ce mot, je dis bien ce mot parce que c'est un vitz en quelque sorte, au bout de la langue le nom. Alors, évidemment on pense immédiatement à le nom sur le bout de la langue, et ce n'est pas ça. C'est au bout de la langue, deux points, le nom, point d'interrogation. Et je vais me tourner là tout de suite vers Chloé, parce que j'ai lu avec attention ses livres, mais en particulier la dernière fiction, donc, qui est parue au Seuil donc, il y a peu, dans la collection Fiction et compagnie, dans ma maison sous la terre. Et enchaînons immédiatement sur la question du nom, puisque j'y relevais vers la fin, mais je connaissais un tout petit peu l'histoire, puisqu'il se trouve que j'ai rencontré le livre de Chloé Delhomme, il y a le second, qui m'a donné de lire le premier, qui est Le cri du sablier, donc il y a une dizaine d'années. Je l'avais lu comme une fiction, et pas comme une autofiction. Et quelques éléments d'autofiction m'avait été donné à l'époque par une interview dans Libération. Donc, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'histoire personnelle, intime de Chloé Delhomme, alors que moi, j'avais été bouleversé par une écriture. Et il y a une vérité qui est dite dans le cri du sablier, et cette vérité est redite, si je puis dire autrement, à la fin de ma maison sous terre. Et c'est la vérité du nom, puisque, alors je vais évoquer, je vais vous donner tout de suite la parole, il est question de plusieurs noms, et avec ces noms, il y a, ben justement, par onomase, Abdallah, Dalin, Delhomme, et bien par onomase. Et je vais vous lancer tout de suite sur cette question de intimer sa vérité, c'est-à-dire, au bout de la langue, le nom.
Je ne sais pas trop quoi répondre, si ce n'est que la reconstruction pouvait passer que par la reconstruction identitaire et que du coup je me suis renommée par le biais de personnages littéraires. Mais ça, je l'ai déjà tellement répété. Enfin, Chloé de l'écume des jours et l'Arvélome d'Artaud pour Delhomme. Donc, de père et père, que j'ai quasiment violé en m'enfantant. Parce que je pense pas qu'Artaud et Vian auraient été très contents d'avoir une fille pareille. Donc oui, voilà, enfin... Non, le seul truc qui fait que je suis pas super à l'aise depuis le début, c'est peut-être cette filiation psychanalytique freudienne qui s'impose depuis le début, alors que en bonne bipolaire à tendance psychotique, je ne suis absolument pas analysable et que je suis plutôt tendance lacanienne intellectuellement, mais voilà.
Et pourtant, là, on est tout à fait dans le signifiant, là.
Oui.
Oui.
Oui. Je vous en prie, poursuivez.
Bon, je continue sur le nom, et je me tourne vers le petit Ludovic. Les parents du petit Ludovic l'attendent à la cave. Dans la crypte du nom.
Oui. Là, je pense que la crypte du nom, c'est le nom N-O-N, plus que le nom N-O-M.
C'est pas donc le nom dit, comme l'écrit Chloé N-O-M.
Non, c'est pas le non dit, c'est même du surdit presque, ou du juste dit plutôt. Ça m'irait mieux ça, quelque chose qui soit dans l'ordre du juste. Je crois que la difficulté, quand on écrit sur des choses qui sont pas forcément qui sont pas forcément, disons, pour simplifier, faciles à écrire, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, disons-le comme ça, c'est trouver une hauteur, finalement. Et c'est sans doute ça qui fait qu'il y a un temps d'attente avant que ça se mette en route, c'est qu'il y a un moment où la hauteur rend possible la chose.
Et elle trouve un auteur.
Oui, c'est juste, elle trouve un auteur, ou elle peut trouver un auteur, oui, si elle est suffisamment bien placée, à la fois dans ce qui est hors de soi et dans ce qu'on peut atteindre de soi à travers ce qu'on veut dire.
Oui, parce que, comme le disait Genet, il ne suffit pas que la souffrance ait un bon dictionnaire pour faire un auteur.
Non, bien sûr, c'est pas... L'événement en soi, enfin, pour ce qui me concerne, en tout cas, l'événement en soi, il est médiocre, il n'a pas d'importance. C'est donc le problème, c'est la hauteur de la forme qui va trouver l'événement. C'est bien un problème de forme, c'est pas un problème d'événement.
Alors, l'événement en soi, on pourrait peut-être le dire tout de suite, d'emblée, alors donc avec la lecture du texte, immédiatement, immédias res. Alors, il s'agit de Un petit viol, donc qui est paru aux éditions Champvallon.
Voilà.
Vous me dites à quelle date ?
Il y a 2 ans.
Voilà, je crois. Et c'est un livre bipolaire.
Je lis le début et la fin, j'enchaîne.
Voilà. C'est pour entrer dans le vif de l'écriture. Dans la vivencia, dans la vivance, comme a dit Edmundo Gomez Mango.
Mon salaud, tu bandes. Il me dit, mon salaud, tu bandes. Il me dit, viens, on va s'asseoir sur le canapé, et dans le canapé, il me demande si j'ai des poils. Je ne comprends pas la question. Elle est si simple qu'il n'y a rien à redire. Comment deviner qu'une question se cache sous la question des poils ? Découillu, il me demande si j'ai des poils, il glisse la main dans mon pantalon et il me dit, mon salaud, tu bandes. Comment pouvais-je prévoir qu'on est un salaud quand on bande ? D'ailleurs, il n'y avait rien de prévu, donc je ne pouvais pas savoir. Non, ça, impensable, cette sale ouverture du corps. Impossible d'imaginer le sexe propre, impossible de se le représenter, sauf dissimulation et cave personnelle. Comment pouvais-je soupçonner que tant de sueur à son visage annonçait son sperme ? Sales images qui vous remontent à la gorge et retombent inlassablement, retombent, pas que palisibles, mais jamais digérées, petit vomi personnel qui vous entretient la santé mentale. Appelons-le découillu, dévissez le nom, dévisse la personne. Je n'ai jamais su ce que je regrettais. Toujours pensé que c'était de ma faute, que j'aurais dû résister, même si rien vu venir, rien compris. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à moi me prend, me disais-je, en considération pour ce que je suis, amitié pure et simple. Chaque fois que je le vois, je n'en ai pas envie, et puis ça se fait quand même, c'est comme si l'envie venait peu à peu. Je ne comprends pas ce passage, je ne sens que le trouble qui monte avec ma queue, et lui, je le saisis rétrospectivement, il sait d'emblée que ce sera possible, il me le signifie. Il dit, Ludo et moi, on va acheter des cigarettes, les autres n'y voient que du feu, parfois je me dis qu'ils le savent, qu'on va se retrouver à deux, quéquette, branlette, sucette, pas possible qu'ils ne le sachent, ne le soupçonnent, pas possible que le monde ignore ce que je ne peux dire, que ne soit pas hurlé ce que je dois taire. Ouverture du chantier le 28 juin 2007, soit 33 ans et 8 mois après ce mercredi soir d'automne, disons que 35 pour simplifier, rien à simplifier, pas sûr d'aller jusqu'au bout, à considérer qu'il y ait un bout. Je sens bien que cela comporte des risques, ça fait des années que je sais qu'un jour je m'y enfoncerai. Non pas 10, 15, mais 25 ou 30, ou peut-être depuis le début, je le sais, sans le savoir, non qu'on écrive sans savoir, mais j'avais déjà les intestins bien lourds. Alors cette chose-là n'a fait que plomber le ventre. Il ne me restait plus qu'à grossir pour enfouir ça, mettre des scellés partout, n'en parler jamais. Ni à mes parents, ni à Véro, ni à Henri, ni à Pierrot, ni à Tony, ni Caro même n'en connaît qu'un bout. Après, on ne vit qu'à travers soi, c'est-à-dire que la fabrique du monde ne se plie qu'avec ce bref tragique de votre existence qui vous a fait jouir et vous enfonce dans vos délectables détestations de vous-même. On s'encombre parce que ceux-là vous encombreront, il reste tout le monde ensuite. Il précède chaque geste tordu par la distance des mots, comme si cela inaugurait sa bouche, son plaisir de dire, me dire. Ça doit faire mouiller sa bouche. Il me dit, je vais te sucer, tu verras, la bouche c'est comme un vagin, quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. Je te suce, le monde est détruit, je te supprime de toi-même. Je prends ta vie dans ma bouche, je te finis. Désormais, je t'interdis d'être ce que tu aurais dû être, les mots ne sont pas les mêmes, sauf ma vie. Il me dit, je vais te sucer, la bouche c'est comme un vagin, tu verras quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. À 14 ans, j'ignore tout du corps féminin, mais il n'est pas question de corps ou de femme, il n'y a que de sexe que sa bouche. C'est sans représentation possible, il suffit de dire le mot, de le faire comme si cela se faisait sans moi, d'ailleurs je ne suis qu'une bite. Vas-y, suce bien, que je meure à fond. Il n'y a rien à voir parce que rien ne sera plus pareil. Il me dit, je vais te sucer, ça commence dans la voiture, sur le terre-plein, c'est l'automne, il fait nuit, il dit, Ludo et moi, on va chercher des cigarettes, on a déjà le bout de nos queues allumées. En mettant du vagin dans sa bouche, il m'interdit le corps des femmes. En pensée, en parole et par action, il tue ce que j'avais pu être jusqu'à ce soir-là. Il me tue dans ses mains, il me tue dans ses yeux, il me tue dans sa bouche. Reste à vivre mort.
Je viens sur le texte, là, oui. Donc, là, et sa nécessité. Parce qu'il s'agit bien d'intimer sa vérité.
Oui, bah le problème, c'était... cette petite anecdote n'était jamais vraiment sortie de ma vie. Mais, comme je le dis d'ailleurs, je savais bien que j'écrirais dessus, ou à partir de ça, que sans doute ça traînait dans d'autres livres, mais d'une façon absolument invisible. Et donc il s'agissait de... il ne s'agissait pas d'ailleurs, c'était là, et puis il n'était pas question d'écrire dessus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'acte de volonté, il n'y avait rien à décider, il n'y avait pas de... il n'y avait pas à intimer quelque chose. Il s'est fait qu'un jour, je ne sais pourquoi, et c'est la chance que nous avons quand nous écrivons, que de temps en temps des choses nous tombent dessus qui permettent de mettre en route le reste, ou un reste. Il s'est fait qu'un jour m'est tombé dessus le titre et puis un principe, c'est que comme je ne pouvais pas mettre d'ordre dans cet événement et dans ma vie d'ailleurs, je me suis dit, mais dans le fond, le plus simple, c'est de l'écrire par fragments courts ou par vers longs, ensuite de classer alphabétiquement ces fragments de sorte que ce ne soit pas moi qui mette de l'ordre dedans, mais que l'ordre soit mis de façon arbitraire. Parce que ça m'était impossible de mettre un ordre dedans.
Et vous avez choisi d'aller de A jusqu'à Z.
Alors, en fait, je n'ai pas écrit par ordre alphabétique, j'ai écrit dans un ordre chronologique et je n'avais absolument pas à penser la présence d'un fragment par rapport à un autre. Il n'y avait pas de structuration du livre, puisque j'avais trouvé une façon d'échapper à ce problème.
Ça, c'est une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas le livre, qui est fait en deux parties.
Voilà, et puis très vite, je me suis dit, mais je vais le présenter tête bêche. Une partie qui est une présentation chronologique de l'écriture, donc ce que j'ai lu, et puis une partie qui sera donc à l'inverse, enfin tête bêche, oui, qui sera le classement alphabétique des fragments. Ce qui m'a très vite donc libéré et permis de faire ça, c'est aussi l'idée que d'une part, je ne pouvais pas sortir de la chose, puisque finalement, quand on arrive au bout de la première partie, on tombe sur la deuxième qui se finit aussi, il n'y a pas moyen d'en sortir. Et puis le fait que finalement les deux textes tenaient exactement les mêmes mots, contenaient exactement les mêmes mots, mais produisaient deux textes complètement différents. Et donnaient un ordre différent à la chose, qui de toute façon ne règle rien pour moi, ça, puisqu'on parlait de vérité, d'intimité, oui. Sa vérité, bon, ça c'est pas...
Il y a tout de même, dans l'idée d'aller de A jusqu'à Z, enfin, c'est un peu à la limite comme les psaumes alphabétiques, hein, donc il s'agit de livrer une totalité. Donc d'avoir fait le tour, en quelque sorte.
Non, pas d'avoir fait le tour, d'avoir fait un tour.
Ouais, d'avoir fait un tour.
D'avoir fait un tour, poétique de la chose. Et puis, bon, a priori, c'est pas une anecdote qui se prête beaucoup à la poésie, donc c'était amusant. Enfin, amusant. Oui, c'était bien de faire un poème avec ça.
Chloé, c'est un second tour de la chose. Dans ma maison sous
la
terre.
Dans ma maison sous terre, le truc, c'est que quand j'ai écrit le cri du sablier, c'était un petit peu comme pour mon collègue. J'avais dans les mouflettes mon premier texte, un tout petit paragraphe qui faisait allusion à la scène primale familiale, à savoir que mon père a tué ma mère et s'est suicidé ensuite. J'ai fait un livre sur cette scène-là, Le cri du sablier. Après ça, je pensais pas retravailler sur ce problème. Et puis, quelques années après, ma cousine maternelle que j'avais perdue de vue a eu la bonne idée de se faire messagère de ma grand-mère maternelle. Enfin bon, tout ça est beau comme Plus belle la vie, c'est une sitcom invraisemblable.
Vous appelez ça une bonne nouvelle.
Et c'est elle qui m'a dit « J'ai une bonne nouvelle qui va te faire plaisir. En fait, ton père n'est pas ton père. » Donc,
et c'est pourquoi on trouve Sacha Distel au milieu du...
Oui, parce que mon père avait pour surnom Sacha, parce que ma mère trouvait qu'il ressemblait à Sacha Distel, et tout ça ressemblait beaucoup à la chanson Scandale dans la famille que ma mère m'avait fait apprendre par cœur. Donc ça aurait été dommage de ne pas en faire une petite chanson. Donc voilà, donc il y a la pièce sonore parce que le livre Dans ma maison sous terre fonctionne avec des pièces sonores qui ne sont pas sorties en CD parce que maintenant pour faire des CD avec les livres, à part dans la collection Extraction que je dirige chez Jocasseria où nous en faisons, c'est devenu très très difficile. Donc du coup c'est sur mon site internet et le site internet de l'éditeur qu'il y a les pièces sonores qui vont avec.
Et c'est très bien.
C'est Aurélie Sfès qui a fait la musique, donc il y a la pièce sonore.
Vous avez fait deux pièces, je crois.
Oui, j'en ai fait deux aussi. Oui, qui sont. Mais j'ai pas fait celle de Sacha. Et il y a la chanson. Vous voulez que je vous lise un extrait?
Oui.
Vous voulez que je vous lise un extrait du cri du sablier ou Dans ma maison sous terre?
On commence par le cri du sablier.
On va commencer dans l'ordre.
Et je voulais dire aussi que dans les chansons, il y a quelque chose qui renvoie un peu aux mouflettes d'Atropos. C'est le parc.
Il y a Parc à thème, mais oui, il faut faire des blagues un peu, sinon on s'en sort pas.
Il y en a quelques-unes. Par exemple, dans le Matricule des anges, vous répondu, tiens, c'est moi qui en fais un de lapsus, vous avez répondu à Thierry Guichard, ça s'est dissolu dans. au lieu de ça, c'est dissous. Ça m'a beaucoup intéressé. Non, non, c'était justement pour faire les
blagues.
Ah
non, mais ça, c'est parce que j'ai été élevée à Sartrouville et que je ne parle pas français. Ça, c'est un autre problème.
Klapka, vous croyez qu'il y en a ? Bon, on commence par le cri du sablier.
Ok, le début.
Le début.
Allez, mon tube. Classé au top 50 avec le cri du sablier. La seule fois où j'ai vendu un livre. Alors... Les hommes nombreux forcèrent la porte. Réfugié au-dedans, je ne pouvais qu'entendre. À l'hôpital, dit l'un, trop tard notèrent les autres. Leurs semelles dans les flaques, ils investirent le crime. Se gorgèrent du réel avec satisfaction. Ils aspiraient chaque goutte pour se forcer à croire, pour se forcer à dire « J'y étais sans la peur, sans le dégoût, sans choc, sans envier la crécelle de l'enfoi moite d'un positif. » Ils salivaient chaque touffe de cervelle échevelée pour se forcer à croire, pour se forcer à dire « Je suis venu pour vaincre et non pour regarder. » Par-dessus la croûte fine de maman sur ma robe, c'est à la contiguë, la mélassonne pitié, le jus du parvenu, la déjection des pleutres qui jalouse en geignant le clinamen aride qui s'abat sur tous ceux ornant les faits divers. L'un d'entre eux au salon saisit le téléphone. « Chérie, je rentrerai tard. Fais les dîners sans moi. Non, les côtelettes, je les ferai griller demain dans le jardin. Mais oui, le temps sera clément. » Nous avons eu un magnifique mois de juin. Ce n'est pas un spectacle pour les enfants, conclurent-ils de concert, le cœur su s'accrocher. Dans la cage d'escalier, la ribambelle noircie. La concierge corifait le Kleenex à la main. Vacillant aux cothurnes, le vernis fut brossé. À la montée des marches, le silence s'imposa dans la crémeuse tension qui suit l'extrême onction. La voisine du dessus m'exposa dans sa chambre, arrangea les coussins et alla faire du thé. Tasses chinoises, un par un, ils entrèrent dans la pièce. Commentèrent l'orpheline, étonnant spécimen. Dodelinant pauvre femme en scrutant au carreau la civière débordante. Puis revenait à moi pour bien palper le mal. S'approprier une bribe de douleur inédite. Comme la sainte biblique violée par les soldats qui creva au matin l'utérus gangréné. Sur le matelas percale, ils écartèrent chaque pli, fouillant au plus profond pour y gicler bien fort leur fructueuse compassion. La moiteur et l'irgrès embuaient jusqu'au sommier. Une feinte lacrymale s'écrasa sur mon coude. Brûlure vive étrangère, souillure de l'inconnu. La source n'y prit pas garde. Elle la croyait offrande, cette saloperie de larmes, cette immondice saline qui s'infiltra au port, laissant une échymose au rond du cartilage. Autour de mon estrade, j'entendais rire les gnomes applaudir au grand cirque, farandolant l'entrée, le chant des partisans. « You are no one of us. Tu monnaieras au prix ta monstruosité. » Mon diamètre oculaire s'agrandit à jamais. Mon diadème dilettante s'accrocha au filet. La coiffe est un pas vide, le chignon retroussé. Le commissaire entra, dissipa les badauds. Sur le siège moleskine de la Renault Flicaille, la fenêtre entr'ouverte laissait tomber gouttelettes car le temps se couvrait. Le gris inopportun du 30 à 19 heures. L'espoir restait intact, commenta la radio. Nous avons eu un magnifique mois de juin.
Alors, à propos de ce magnifique mois de juin, vous avez écrit un livre « Les juins ont tous la même peau ». Et ça renvoie un peu à la question du nom et à l'origine aussi du choix de ce que vous appelez. Alors, je crois que c'est dans le petit livre qui s'appelle « La règle du jeu ». Vous parlez de patronyme.
Oui.
Ce qui est très fort, d'employer le mot patronyme pour Delhomme.
Bah oui, mais c'est le cas.
Oui. Parce que vous êtes un personnage de fiction.
Oui. Et
voilà.
Bah oui. Donc,
Pourquoi cette histoire de mois de juin?
Bah non, mais c'était le jeu de mots. C'est-à-dire que mes parents, c'était le 30 juin 83 et normalement, c'est les morts ont tous la même peau. C'était le livre que j'ai fait sur Boris Vian. Oui. Donc, les juifs ont tous la même peau.
Voilà.
Non, mais des fois, faut pas chercher très loin.
Cherche pas.
Non, mais c'est tout.
Non, c'est l'idée toujours d'intimer la vérité. Par exemple, bon, Marc Décimaux,
oui,
bon, signe votre acte de naissance littéraire le jour où vous rencontrez l'écume des jours.
Mais il a raison, Marc Décimaux.
Bah oui.
Mais Marc Décimaux était mon professeur de linguistique à la fac. Mmh. Et c'est le premier pataphysicien vivant que j'ai rencontré. Marc Décimaux est quelqu'un qui a toujours raison.
Oui, il signe d'ailleurs, professeur à l'Université d'Orléans et membre du Collège de pataphysique.
Oui, oui, c'est marrant que vous soyez tombé sur...
Oh non, c'est pas marrant.
Ah, non, mais
c'est drôle.
C'est étrange, oui.
Oui,
oui, Marc Décimaux ne peut qu'avoir raison me concernant. Oui,
oui, et il dit des choses extrêmement intéressantes concernant l'hybridation.
Oui. Je ne savais pas qu'il avait écrit sur moi, Marc Décimaux.
Et si, il a écrit sur vous, c'était une rencontre sur les relations familiales dans la littérature au XXe et au XXIe siècle. Ouais.
C'est drôle. Il y a 10 ans ou 15 ans, il me mettait des mauvaises notes et maintenant il me mettait des mauvaises notes. C'est normal, j'étais nulle.
Mais, et il remarque que vous choisissez des mots invraisemblables ou incroyables.
Anadiomène,
Bardot.
Bardot, c'est Artaud, il faut bien rendre... Non, c'est pas des noms incroyables, c'est normal. Enfin, je veux dire, on a un rôle... On a un rôle comme écrivain aussi de pas laisser mourir les mots.
Oui.
Sinon, qui le fait? Donc... Non, là, c'est autre chose. C'est une question de devoir, presque, par rapport au petit Robert.
Oui. J'en reste à la question de l'hybridation et de la vérité. Parce que le Bardot, c'est une hybridation.
Oui.
Chloé Delhomme, c'est une hybridation.
Oui.
Oui.
Bah, que voulez-vous que je vous dise?
Que c'est l'intime vérité.
Que l'intime vérité est une hybridation.
Et que cette intime vérité est littéraire, elle est dans les mots.
Oui. Et que de toute façon, en étant un personnage de fiction, l'intime vérité n'est que construction littéraire.
Pourquoi dans les dernières présentations que vous faites, vous ne mettez plus « et » ? Je suis Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, il n'y a plus de « et » après.
Oh, bah parce que c'est en train de se contracter. Parce que je prépare un truc.
Oui.
C'est pour des questions rythmiques.
Oui.
Mais je prépare un truc.
On a entendu des questions rythmiques dans le cri du sablier.
Ouais. C'est les vers blancs.
Oui.
Vous avez entendu les vers blancs. C'est les asticots. C'est parce qu'on parle des morts.
Oui.
Non, mais je prépare un truc qui sort en septembre. C'est pour ça que là, je ne suis pas très bien réveillée parce que je ne dors pas beaucoup en ce moment. Mm-hmm. Non, mais je peux... Vous voulez pas embêter un peu mon camarade?
Si, mais justement, on va passer de vous à vous. Hein, donc, Ludovic, il y a un voyage au pays des morts. On n'est pas chez les Phéaciens, enfin, un voyage au pays des morts, donc avec ma maison sous terre. Et si je prends 69 vies de mon père, je suis dans une, non pas une vivencia, non pas dans une vivance, mais dans une survivance. Si je lis ceci, le prologue. Qui est un prologue quand même assez étonnant.
Je suis né le 2 avril 1920 à Hazebrouck, au 41 de la rue du Rivage, et mort à la Madeleine le 9 juin 1989, 143 avenue de la République. Né chez moi, mort chez moi. Entre ces deux dates, ma vie. Je crois qu'en mourant, j'ai laissé quelque chose qui ne m'appartenait plus. Quelque chose que je n'ai jamais dit, ni même raconté, ni même cherché à exprimer, mais qui a constamment été fait, était là, fait de fragments, de bribes, de bouts, auxquels les limites déterminées par mes dates de naissance et de décès donnent, sinon un sens, du moins une espèce d'unité. En mourant, il me semble avoir abandonné quelque chose qui ne m'appartenait pas, dès le début, quelque chose qui au fond faisait que je n'étais même pas le début, qu'il n'y avait pas de commencement, mais une simple inscription dont la complication provenait de ce que je cherchais à lui fournir un sens et une unité. Un peu comme lorsqu'on entre quelque part, on laisse son manteau au vestiaire et puis à la fin, quand on repart, on le reprend. Ce n'est pas ça qui donne du sens à la visite. Ça en indique juste l'heure.
Il est rare de rencontrer, bon, il y a Edgar Poe bien sûr, hein, avec Monsieur de Valdemar, de rencontrer je suis mort à tel... Alors, pour enchaîner un petit peu sur la bribe de conversation donc avec Chloé Delhomme sur l'hybridation et sur nos vies qui sont tissées de mort, peut-être vous voulez avancer sur ce chapitre-là. Évidemment, il y a en partie ce livre, mais il y a aussi peut-être Le Petit Viol. Hein, donc,
Oui, et puis il y a un livre qui précédait celui-là qui s'appelait Pensée des morts, qui a été publié chez Tarabuste.
Et c'est un livre qui vous a coûté du temps, en
particulier. Oui, qui m'a coûté du temps. Oui, comme celui-là, d'ailleurs, ce sont des livres qui ont été assez longs. Oui, parce que c'est toujours, j'en reviens toujours à cette même... à ce même constat, c'est que il faut que le livre puisse trouver un moment il faut que le livre puisse se dégager de soi et qu'il acquiert une certaine forme d'autonomie pour pouvoir être proposé à la lecture, et ça peut prendre du temps. Et c'est, pour ces livres-là, ça a pris beaucoup de temps. Oui, il y en a d'autres qui ont été écrits entre-temps. Mais le rapport au temps, peut-être on y reviendra après. Moi, ce qui m'intéresse aussi à propos de ce qu'on a dit, enfin les morts, je ne vais pas raconter ce qui se passe à propos des morts chez moi, ça n'a pas d'importance, c'est dans les livres. Mais... ce que j'aime bien, par exemple, dans ce livre-là, et je voudrais revenir aussi au thème de la journée des rencontres, c'est que finalement, dans cette façon dont j'ai pris la place de mon père en parlant à travers lui, puisque quand les morts disparaissent, ils continuent à vivre, ou ils peuvent continuer à vivre à travers nous, qui ne vivons qu'avec nous-mêmes et pas avec eux, mais dans la représentation que nous pouvons établir d'eux à travers nous-mêmes. Ce que j'aime bien, c'est l'idée du possible. Et plutôt que... j'aimerais bien peut-être assimiler l'idée de vérité à l'idée de possible. Et pour moi, qui suis... qui fait de la poésie, je considère que tout ce que j'ai écrit est de l'ordre, enfin c'est de la poésie, même si c'est pas toujours des poèmes en vers, qu'importe. Je pense que c'est ça qui est important, c'est cette idée d'une proposition. Le poème me semble être comme une proposition, et dans la mesure où l'autre, c'est-à-dire le lecteur, peut s'y retrouver, peut se retrouver et peut s'y retrouver d'une certaine façon, et là je rejoins tout à fait ce que vous aviez cité de Proust tout à l'heure, c'est probablement qu'il y a une forme, une vérité possible à l'intérieur du livre ou à l'intérieur du texte. Et vous voyez, je crois qu'elle ne se fait pas ni par rapport à moi, ni de moi par rapport au livre, mais elle se fait triangulairement, ou alors binairement, parce qu'après le lecteur, il est avec le livre, il n'a plus, l'auteur n'a plus d'importance. Mais je crois que c'est ça. Moi, je serais assez sensible à cette idée de proposition, de la littérature comme proposition ou comme possible d'une vérité que l'auteur peut trouver. Et je suis très sensible, par exemple, quand j'écris, et c'est encore plus vrai dans mon dernier livre, mais à ce que le lecteur puisse se retrouver dans le texte. Donc il ne s'agit pas, même dans Le Petit Viol, il ne s'agit pas d'aller déboutonner ma vie. J'ai de la pudeur, donc je peux parler de ce qui s'est passé, ça ne me dérange pas, c'est pas là que je joue ma pudeur. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est que y ait quelque chose qui soit proposé, qui soit offert au lecteur, et que le lecteur puisse, lui, à sa manière et avec sa vie, donc dans sa propre possibilité et avec sa propre vérité, retrouver quelque chose. C'est à mon avis, et c'est dans ce sens que je pense que Proust, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'a dit Proust, hein, mais c'est dans ce sens, je pense que Proust a parlé à la fois de la littérature comme vraie vie, la vraie vie, c'est la littérature, enfin, c'est la vie passée par la littérature. Et puis, c'est cette façon dont il propose que le lecteur établisse le constat de la vérité ou d'une vérité possible de la littérature et du livre.
Je vais revenir à cette idée de possible avec Chloé Delhomme et avec vos chantiers d'expérimentation,
ouais,
justement.
Alors, en fait, moi, en entendant ça, ce que je me dis, je pensais au travail effectué jusqu'à tôt ce matin, c'est intimer la vérité, c'est pas exactement ça que j'essaye de faire. Enfin, j'essaye de faire ça, mais pas exactement de cette façon. Disons que moi, c'est plus quelque chose d'expérimental au sens de l'expérience et le laboratoire, et c'est plus essayer de retrouver quelque chose de juste au sens du ressenti. C'est-à-dire de faire en sorte que l'expérience de lecture permette au lecteur, par le biais du ressenti, donc qui passe par une scansion, peut-être des images, quelque chose de sonore plus, quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensation, de subir, parce que je peux pas dire que ça soit doux ce que je fabrique. En tout cas, c'est pas fait pour l'être. Essayer de transmettre une expérience pour qu'on soit dans... Ouais, le roman, c'est quelque chose d'empathique. Donc, c'est transmettre mon expérience, ouais. Ça serait plus ça, intimer la vérité. Alors, c'est sûr, c'est pas sympathique. Parce que je vis pas, j'ai pas vécu des expériences très folichonnes. Et ce que je transmets, c'est plutôt des choses qui sont pas agréables. Quand c'est des livres qui sont plutôt... Ça, j'habite dans la télévision ou certainement pas des livres qui se veulent plus politiques, c'est plutôt des livres de mise en garde basique et plutôt radicaux, ou alors des expériences poétiques dans le meilleur des cas. Donc c'est jamais des expériences de lecture très très agréables. Le prochain roman d'amour, mais finalement c'est un piège parce que le lecteur s'en prend plutôt plein la gueule au final. Mais je crois que j'essaye de faire ça. C'est-à-dire que moi je suis assez contre le roman sociétal en fait. Enfin assez contre, ça veut rien dire. Mais mon rôle en tant qu'auteur, c'est pas de restituer un portrait acide de la société contemporaine. C'est pas du tout mon truc. On a un stade de la société d'information où on n'a pas vraiment besoin de Zola maintenant. Mais essayer de restituer une justesse dans le ressenti, oui. Par le poétique, ça me semble être mon travail.
Il y a un chapitre de Ma maison sous terre qui porte le titre modulo le S.
Ouais.
Rose poussière.
Rose poussière, ouais. Bah, je trouve, moi, mes deux. Mon panthéon absolu, c'est Guyotta et Choule. Pour moi, c'est les deux plus grands écrivains de langue française. Après, sur les écrivains très importants, qui sont pour moi des écrivains après d'autofiction, il y a effectivement Forest et Angot, quoi. C'est comme ça.
Je voudrais qu'on revienne sur Choule par rapport à ce que vous aviez dit auparavant, justement, en parler de la justesse, parlant des fictions individuelles et puis de ce que vous appelez...
La fiction collective.
Oui.
Disons que je considère qu'on est dans un monde de... Enfin, je renvoie à storytelling... de Salmon, enfin, je considère qu'on est dans un monde de légendes capitalistiques, qu'on est dans un monde de fiction collective bien ourlée, de fiction individuelle complètement écrasée, et que pour lutter, faut que le je lutte, quoi. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans un monde individualiste, à l'ère de la télé-réalité, etc. Mais la réalité est que vous êtes embringué dès la naissance dans des fictions familiales, religieuses, sociétales, médiatisées, et qu'en fait, il n'y a plus de place pour le jeu, quoi.
Alors la citation de Rose Poussière, enfin, je rappelle que ce rose ici est au singulier, que celle-là, bon, c'est parce qu'on se promène au cimetière, peut-être.
Ouais,
donc, Rose Poussière, rose est au pluriel. Alors, c'est la mort saisit le vif, et non pas le mort saisit le vif, comme dans Kantorowicz, mais la mort saisit le vif, les morts veulent hériter des vivants, de tous sans exception. Donc, cette citation vous a paru particulièrement importante. Ben oui, elle est magnifique. Et donc, elle nous intime une certaine vérité.
Oui, bah, de toute façon, mais elle parle d'elle-même. Enfin, c'est difficile de faire une... Et puis, elle est mystérieuse en même temps. Elle est assez mystérieuse, de tout sans exception. Elle est assez...
Les morts veulent hériter des vivants.
Ben oui. Surtout Choule, alors qu'il est encore vivant.
Mais vous ?
Non, moi je suis ultra consciente, la citation de Sioran sur le mausolée absolu sur lequel on s'érige, je l'ai lu à 14 ans, ça m'a calmé direct. On est dans une langue de mort, une culture autour des morts. Quand on fait de la littérature, on avance que dans un charnier du colonel Chabert.
Là, la décomposition, c'est assez précis et le roman est vraiment putride.
Oui, c'était...
Comme vous dites.
Non, puis bon, moi, en bon ex-gothique avec plein de stigmates.
Vous avez parlé de votre site tout à l'heure, puisqu'il y a l'oratorio, donc je cite les mots que vous employez, qui est donc audible, hein, donc sur le site. Quand on regarde votre page, on a une... Alors, je sais que c'est un créateur de mode qui a...
Oui, c'est dévasté.
Voilà, dévasté en plus. Bon, extraordinaire de ce point de vue-là. Oui, qui a donc dessiné, alors, votre page à vous, où on est comme un cercueil qui est ouvert, qui ressemble à un couffin.
Oui.
Alors, vous l'avez fait exprès ?
Bah oui.
C'est couffin coffin, c'est ça ?
Oui, c'est un cercueil fermé. Après, quand on va sur la page biographie, il est ouvert. Oui.
Il est ouvert et on a l'impression qu'on a affaire quelque part à un divan et de l'autre côté un fauteuil. Ça ne fait pas cette sensation-là ?
Non, mais ça c'est parce que vous êtes psychanalyste. Non.
Mais ça illustre un petit peu, c'est les morts veulent hériter des vivants. Donc ce graphisme qui est...
Oui, aussi.
C'est un site sur lequel on peut se...
Oui, il y a plein de trucs sur le site, parce que comme j'ai pas de mémoire et que je suis bordélique, tout est sur le site.
Est-ce que vous pouvez dire quelques petites choses là, par rapport à, justement à la vérité et Internet et votre site ? Pourquoi vous avez choisi...
Le site, je l'ai depuis 2002, parce que il faut bien centraliser les choses, que ce soit les textes en revue, j'en fais depuis longtemps, donc tout est en ligne... Parce que les textes en magazine, en revue, etc., fallait bien qu'il y ait des traces. Il y a les pièces sonores depuis longtemps. Là, maintenant, il y a la revue qui va être lancée, la revue Extraction qui va être lancée le 5 février. Donc, il y aura plus de... Puis les collectifs, surtout, des traces de ce que font d'autres gens que moi. Donc, ça sera plus intéressant.
Pour la suite de Tina ?
Non, Tina continue, c'est toujours Eric Arlix et Émilie Noteris. Il y a le prochain numéro sur l'argent là qui sort. Mais je ne suis plus dedans puisque je m'occupe d'extraction, collection papier pour les ouvrages et revue pièces sonores et articles critiques. Mais sonores, MP3 les critiques. Et puis le site, mais là je laisse tomber un peu la partie blog, j'ai plus le temps à cause d'extraction. En fait,
extrayons donc quelques poèmes maintenant de Ludovic de Groot dans le début des pieds. Alors, donc nous avions évoqué tout à l'heure le petit viol, on a dit le petit Ludovic, et là on va mettre un petit pansement. Et c'est pas par hasard que j'évoque que c'est tout à fait la fin. Alors, moi, il faut que je mette mes lunettes dans ce cas-là. Alors, il s'agit du dernier recueil de Ludovic de Grotte aux ateliers La Feugraie. C'est le début des pieds. En fait, c'est un livre qui est composé de
trois poèmes.
Mmh. Et donc là, il s'agit du dernier, qui s'appelle Le début des pieds. Oh, pas de transition étrange. Hein. Les pieds devant.
Je peux faire quand même
oui.
Lire un tout petit endroit que j'aimerais lire parce qu'il fait écho à quelque chose qu'a évoqué tout à l'heure Chloé. Mmh. Et, juste une seconde.
Donc Chloé a parlé du sonore et des résonances.
Non, c'est plus vieux, que ça. Voilà. Absolument pas, Chloé. Ce n'est absolument pas mon naturel. La vie vous vient par le dedans. C'est à cause des écoulements. Ils se font par l'intérieur. Cloisons nasales, œsophages, descentes d'eau, descentes d'organes, veines sclérosées, sang desséché, cerveaux avariés. On me prédit des urines mortes et des puisards bouchés. C'est très difficile de ne pas se laisser aller. Nirina est prête à faire l'amour avec Nathan ce soir. Elle peut pas dire baiser comme tout le monde, cette connasse. Nous sommes dans une situation très difficile, car Nathan ne veut plus essayer. Il redoute un échec. À 15 ans, c'est connu, ça vous tue. Du côté écoulement, Nathan et Nirina ne me semblent pas très cool, mais quel joli couple et quel joli miroir. Nathan n'est pas un éjaculateur précoce, ouf. Et Nirina n'était pas mouillée l'autre soir, mais depuis qu'elle a vu son gynéco, ça va mieux, faut pas se demander pourquoi. Quel bonheur. À la télé. Tout coule. C'était un écho à Plus belle la vie.
Voilà. Donc on habite dans la télévision.
Je lis la suite.
Oui.
Non.
On peut enchaîner parce que je vois Chloé qui prend son premier carnet.
Non, parce que je pensais à un truc de décomposition.
Allez-y.
Vas-y.
Alors je passe au petit pansement.
Alors le petit pansement.
Oui.
Tandis que le monde s'écroule dans nos pieds, nous tentons de durer, car nous allons par principe jusqu'au bout de notre vie. Je m'oriente vers l'extérieur. Le temps de passer n'inclut jamais que moi et les débris du monde. Drôle de pluie épaisse qui ne tient pas compte de nos angoisses. Nous ne pouvons guère nous désolidariser de nous-mêmes, sous peine de nous laisser nous abandonner, de ne plus nous sentir étranglés dans cette misérable défaite du monde et de soi qui nous tombe dessus et transperce tout. Mets un petit pansement, ça ne t'empêche pas de parcourir le monde. Emmène tes petits pansements. J'aimerais bien pouvoir écrire que le petit pansement, c'est l'écriture, ou que l'écriture en notant le pansement met le monde à nu, plaie du monde, plaie de soi. Écrire quelque chose qui active son petit symbole et apporte sa grandeur au poème. J'aimerais bien écrire une petite obscurité populaire en achevant le torrent « Ô rail du peuple libre, incendie le froid chambranle des montagnes ». Mais j'en reste à la vie qui nous ronge. J'ai emmené mes petits pansements. Je vis dans l'attente qu'ils me servent, puisque la vie ne saurait tarder.
C'est fort.
Ouais, c'est vachement.
Alors, ces petits pansements, on pourrait les écrire aussi avec un E.
Bon, oui.
Oui,
pourquoi pas. Je sais pas, oui, si vous voulez, oui. Non, ces pansements sont tout à fait réels. Et voilà. Mais un peu de la manière dont je le disais tout à l'heure, voilà, il y a des choses qui renvoient à des choses qui sont absolument personnelles et intimes et qui ne concernent que moi. Et puis, je m'arrange pour qu'il y ait un équilibre possible, enfin un équilibre, une possibilité, je vais revenir au même mot que j'ai eu, une proposition, pour que voilà, le lecteur puisse prendre ce texte à sa manière, avec ce qu'il est, ou avec sa propre vérité.
Exactement, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Vous savez que j'ai choisi ce poème en particulier, hein, donc lorsque j'ai rendu compte de ce recueil.
Voilà.
Et effectivement, j'imagine bien que c'est concerné au premier chef par ce qui est écrit. Et en même temps, il y a une universalité ici, voilà. Effectivement, hein, de vérité.
Bon, donc, le mot universel est un peu grand, mais enfin, bon, disons une pluralité possible de.
C'est ça, oui. Mais la vie ne saurait tarder. Je vois que Chloé Delhomme reprend.
Non, mais je cherchais un passage par rapport à cette thématique. Peut-être que j'aurais. Sur l'histoire d'intimer sa vérité et du fait de se nourrir de la vérité d'autrui, peut-être ça rentre dans le cadre.
Tout rentre dans le cadre.
Parce que, en fait.
J'aimerais qu'ensuite vous nous parliez un tout petit peu de votre livre sur l'autofiction, sur la règle du jeu.
Ah, alors je prends la règle du jeu, peut-être.
Prend la règle du jeu, vous voulez.
C'est ça, vous vouliez que je vous lise un extrait.
Qu'on en parle un peu de cette règle du jeu. Et
oui,
puis,
je vais le dire parce que je vais faire de la paraphrase de toute façon si je parle de ce livre. Vous voulez le début, c'était ça?
Oui.
Alors, je vais vous lire le début de La règle du jeu, qui est un essai qui m'avait été... Alors, je n'ai pas eu l'idée de faire un essai de moi-même.
Hein. Ça vient après ce que vous avez donné à Cerisy.
Oui, c'est-à-dire... Donc... Mais là, c'est pareil, on m'a invité à Cerisy. Hein, j'ai pas eu l'outrecuidance de me présenter à Cerisy. En vérité, je n'aurais jamais cru avoir le niveau parce que j'ai arrêté les études en licence. C'est Isabelle Grell qui allait me chercher. J'ai eu très, très peur.
Je voudrais dire aussi que le texte que vous avez donné à Cerisy, il est dans un livre qui part actuellement, mais il est aussi sur votre site.
Oui, et il est chez François Bon aussi, chez republi.net.
Il s'intitule « Je m'écris ».
Non, « S'écrire mode d'emploi », j'avais fait une petite blague.
Voilà. Comme le
voilà. Et ça s'appelle « La règle du jeu ». C'est Laurent de Sutter qui me l'a commandé dans sa collection « Travaux pratiques au PUF ». Et le chapitre s'appelle « Si vous avez manqué le début ». Est-ce que c'est ça qu'il faut pour expliquer Oui, ça explique, je crois.
Non, en gros, vous êtes en débat avec l'autofiction dans un premier temps, puis
oui,
ensuite vous affirmez l'autofiction.
Est-ce qu'il faut affirmer qu'est-ce qu'il vous faut, en fait, le truc où ça explique
vous,
l'autofiction?
C'est vous qu'il me faut.
J'ai très, très peur du moment qui tout ceci doit... Peut-être qu'est-ce qu'il faut, c'est sur l'autofiction la question ici, donc oui. Il vous faut le truc sur l'autofiction.
Mais tout le livre est sur l'autofiction.
Donc on va vous faire sur peut-être que c'est quand même... Oh là là, j'aurais dû un peu plus préparer au lieu de travailler cette nuit sur le livre, j'ai très très honte. Voilà, alors on va faire, on va le faire ici. Je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction. Mon corps est né dans les Yvelines le 10 mars 1973. J'ai attendu longtemps avant de m'y lever. Il fallait que les mots débordent à l'intérieur et que la lassitude embourbe muqueuse synapse. Il me fallait une âme béante à fleur de plaie. J'ai très officiellement pris possession des lieux l'été de mes 26 ans. De ces 26 ans. Dans la chaleur vacante, j'ai défait mes cartons. Ils contenaient des grimoires et de la volonté. Les locaux étaient sombres et plutôt insalubres. J'ai passé une saison à blanchir à la chaux les parois cervicales. Les nerfs étaient hirsutes et le corps en lambeaux, j'ai mis beaucoup de temps à le raccommoder. Je m'appelle prénom-nom bien plus qu'un pseudonyme. Le choix des référents m'a vomi parrainage, ce fut un kidnapping. J'ai imposé Chloé cancer du nénuphar, extrait larve de l'aume pour toujours me trouver de l'autre côté du miroir. Reconfiguration jusqu'à mon ombilique, se détacher des limbes, oui, une bonne fois pour toutes. Boris Vian se débattait, Arthaud aussi, je me souviens. Il se refusait sec à m'engendrer, je sais. Je les ai violentés, nés de père et de père. Je me suis moi-même engrossée. Je m'appelle aujourd'hui parce que j'ai imposé un second commencement, où la fiction toujours s'entremêle à la vie, où le réel se plie au contour de ma fable. Celle que j'écris chaque jour, dont je suis l'héroïne. Mon ancien jeu, par d'autres, se voyait rédigé, personnage secondaire d'un roman familial et figurante passive de la fiction collective. Me réapproprier ma chair, mes faits et gestes comme mon identité ne pouvaient s'effectuer que par la littérature. Je ne crois plus en rien si ce n'est en le verbe, son pouvoir tout-puissant, et sa capacité à remodeler l'abrupt.
Je vais vous arrêter là parce que vous avez parlé du verbe tout-puissant.
Oui.
Et ça me parle. Une thématique qui est, enfin, une expression qui revient fréquemment. Et j'ai en particulier lu dans Éden, matin, midi et soir, donc un paragraphe où il est question précisément de l'Éden. Bon, l'auteur a pris des cachets, indique qu'elle dort. Elle se dit à un moment donné : je suis morte, j'ai gagné. Gagné quoi ? Où je suis ? Et ce n'est pas terminé, ça ne se termine pas. Ce n'est pas comme je ne croyais en rien, etc. Et on en arrive à la terre originelle, l'espace mental premier. Je ne connaissais l'Éden que comme posologie, matin, midi et soir, comme le titre.
Mmh.
Et les cachets intégrés faisaient de moi une Ève, une camisole chimique en guise de nudité. J'ai froid, pourtant mon corps, je ne le sens plus tellement, je ne le sens plus du tout, ça y est, je l'ai quitté. Mais c'est ça qui m'intéresse. Au commencement était le verbe, je ne suis plus que des mots, mais des mots pleins ma tête, je voulais un après, pas un avant la vie.
J'ai fait mon apostasie l'année dernière, alors.
Ah, racontez-moi votre apostasie.
Justement, c'est dans le prochain livre.
Ça, je ne pouvais pas prévoir.
Non. J'ai fait mon apostasie, donc normalement, mais je crois quand même drôlement fort dans le dictionnaire.
Mm-hmm.
Non, il y a la seule chose à laquelle je crois, effectivement, c'est le langage. Donc, là-dessus, je ne peux pas trop répondre, c'est ma seule foi.
Oui. C'est, d'ailleurs, vous êtes en débat dans la maison sous la terre avec un dénommé Théophile, au nom bien choisi.
Ouais.
Ce n'est pas à cause des émois camés, je ne crois pas.
Non.
C'est les actes des apôtres, carrément.
Peut-être. Non, vraiment, c'est. Je joue dessus, mais. Enfin, c'est pas pour rien que je vais chercher tout le temps le petit Robert.
Oui.
Ouais.
Moi, j'allais chercher le petit Ludovic quelques secondes, quand même, si tu permets, Sylvie, parce que je ne voudrais pas terminer notre entretien, notre conversation, sans que Ludovic nous ait parlé un petit peu d'une passion qu'il a pour Eugène Leroy et d'un très beau texte qu'il vient de faire paraître. Et il va nous en dire quelques pages ou quelques mots. Vous me dire simplement.
Je peux lire. Leroy, c'est un peintre immense. Que voulez-vous que je vous dise?
Et peut-être que Colodi nous en reparlera dimanche, puisqu'il vient lui aussi d'écrire un livre
sur. Il en parlera aussi. Et si je veux relier un peu des choses qu'on a dites à Leroy, ce que j'aime beaucoup chez Eugène Leroy, dont je vous recommande une exposition absolument magistrale qui a lieu à Tourcoing jusque fin mars.
Et un tableau qui donne son titre au texte de Ludovic, c'est Autoportrait.
Autoportrait noir.
Noir, comme par hasard.
Il a fait beaucoup d'autoportraits. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement difficile à saisir, sinon insaisissable. En fait, on peut prendre plein de choses dans sa peinture, mais il est en même temps tout est rétif. Et c'est quelqu'un, pour reprendre un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, pour moi c'est une peinture du possible. C'est une peinture qui demande du temps d'appropriation, du temps d'incorporation. C'est aussi une peinture qui se distribue encore plus que d'autres dans l'espace. Et en cela, c'est pour moi une peinture vraiment très importante. Qui plus est, Eugène Leroy est quelqu'un qui est né en 1910 et mort en 2000. Il a vécu et il a peint jusqu'à sa mort. Et c'est quelqu'un qui a donc traversé tout le XXe siècle, à l'écart de tous les courants et de tous les mouvements. Mais c'est quelqu'un qui a énormément regardé la peinture des autres. Il avait par exemple une admiration pour Mondrian. J'ai compressé aussi les mots. Donc il n'était pas du tout ignorant de la peinture et de l'histoire de la peinture, au contraire. Mais c'est une peinture du possible aussi. Il se fait qu'il a passé une bonne partie de sa vie à être prof de français. Il avait une formation de lettres classiques. Donc je vous lis les dernières pages, comme m'a demandé Renard, je ne vais peut-être pas tout lire. J'aurais pu dire, ce visage fait penser à un masque mortuaire légèrement anamorphique, et Leroy se rattache par là à une triple tradition. Baroque, parce qu'il expose la certitude de la mort dans sa réalité crue, comme je peux voir, en dépit de leur étirement
ce masque ou ce crâne cru. Janséniste, en ce qu'il invite à concentrer sa vie sur la préparation de la mort, cette tête isolée dans la toile refuse de représenter autre chose que ce qui signifie cette fin. Maniériste dans la façon de traiter la matière de ce visage sans contour, surgissant d'un fond sombre grâce à une lumière subtilement divisée. Triple tradition fortement liée à la Flandre. J'aurais pu dire, dans cette toile, le roi révèle à quel point la peinture peut libérer notre perception de la vie comme de la mort, selon la lecture qu'on fera de ce visage. Visage éclatant, lumineux, surgissant, dont les yeux gorgés de peinture et la variété de couleurs affirment la vitalité et le mouvement de la vie. Visage que la dominante des blancs tourne vers le crâne et fige au milieu de cette patinoire dans laquelle il s'enfonce, de façon irrémédiable.
C'est très cruel. Jean, on va en rester là.
Non, mais je vous invite à aller voir l'exposition.
Aller voir l'exposition au MUBA, ça c'est sûr, donc à Tourcoing.
Ouais.
Et puis aussi à lire ce livre qui est aux éditions Invenit.
Invenit, voilà, mais qui sort fin février.
Oui, et je vois Sylvie avec son micro pour vous poser des questions. Moi, je vous remercie d'avoir donné comme ça de vous, avec ce que vous avez lu, ce que vous avez donné. C'est vraiment formidable. On pourrait y passer des heures, et plus que des heures.
Ça, je suis entièrement d'accord, plus que des heures. Si vous avez peut-être deux ou trois questions brûlantes que vous voulez poser à Ludovic de Groot ou Chloé Delhomme, je vous en prie. En tout cas, on a entendu que la vérité est en forme.
Merci. C'est juste une remarque. J'ai été touchée par ce que vous avez dit, Ludovic, parce que ça me paraissait répondre un peu à ce qui avait été dit précédemment. Lorsque vous dites qu'au fond, il y a une proposition dans l'acte d'écrire, et que et ce que disait aussi un peu Chloé aussi, que finalement, le public ou le lecteur, ou enfin... s'en saisit et que finalement la vérité finalement elle existe, elle éclate dans la mesure où elle est avalisée, c'est-à-dire par quelqu'un s'en saisit, quoi, quelqu'un s'y retrouve, quelqu'un l'a fait exister, donc ça m'a paru répondre en même temps à la question qui était posée de façon générale par le débat, quoi.
Merci à vous.
Merci.